Le 7-9 de France Inter. Vous êtes 3 900 000 auditeurs à écouter chaque matin la première matinale de France.
Bonjour Jean-Marc Daniel.
Bonjour.
Économiste, professeur à l'ESCP Europe, directeur de la revue sociétale. Vous vous définissez vous-même comme un libéral. On verra comment vous jugez les réformes Macron et ses mesures fiscales, notamment un an après son arrivée à l'Élysée. Mais d'abord l'Iran, la crise et ses conséquences. Est-ce qu'il faut redouter, en plus du bruit des bottes qu'on entend en ce moment, une crise économique née de la situation là-bas?
Alors, je crois qu'une crise économique serait un peu excessive. Je pense qu'il y a trois conséquences quand même de ce qui se passe. D'abord, ça perturbe forcément le marché du pétrole et on est dans une période où le marché du pétrole a tendance à de nouveau se tendre. Et dans le cycle économique qui caractérise les économies développées, toutes ces périodes où le marché du pétrole commence à se tendre sont annonciatrices d'un retournement cyclique. C'est-à-dire que je pense qu'on a mangé notre pain blanc et qu'en termes de croissance, l'Europe et notamment la France va avoir du mal à partir de l'année prochaine à tenir...
C'est déjà fini la croissance.
Oui, c'est déjà fini. Enfin,
on n'avait pas eu le temps de s'habituer.
Oui, la croissance à 2%, je pense que c'est la dernière année où on va avoir une croissance à 2%. Le deuxième élément, c'est que on peut craindre une réaction extra-économique un peu brutale du régime iranien dans des circonstances où c'est une économie qui est encore faible, encore une petite économie, même si c'est un pays qui est assez peuplé, qui est gangréné par l'inflation, et c'est une économie qui c'est une des rares économies où à la dernière assemblée générale du FMI on a revu le taux de croissance à la baisse, alors que tout le monde considérait, et on était avant l'annonce des décisions prises par les États-Unis. Donc l'économie iranienne souffre à la fois d'un effort de guerre qui est surdimensionné par rapport à ses capacités et qui est d'une économie qui est beaucoup trop encadrée, dirigé avec beaucoup de prédation publique. Donc, c'est une économie qui peut souffrir et à partir de ce moment-là, le nationalisme peut être renforcé. Puis, le troisième élément que je trouve le plus grave et le plus important, c'est que, en fait, c'est un prétexte pour les États-Unis de réamorcer une stratégie protectionniste qui consiste à pénaliser les entreprises européennes sans avoir à pénaliser le consommateur américain. Il y a un économiste assez célèbre aux États-Unis qui est Nicolas Gregory Mankiw, qui explique assez bien qu'en fait, le protectionnisme traditionnel qu'a essayé de mettre en place Donald Trump, c'est les Américains qui le paient. Il dit, si vous vous attaquez, si vous mettez des droits de douane sur les produits européens, il dit, moi je bois du Chablis tous les soirs quand je rentre de mon université, je roule en BMW, je suis habillé par Hugo Boss et chaussé par Gucci, donc si vous mettez des droits de douane, c'est moi qui vais les payer, ces droits de douane. En revanche, si vous mettez des droits de douane sur la Chine, par exemple, ma secrétaire, elle va chez Walmart, et donc c'est elle qui va payer les droits de douane, parce que 80% des produits vendus par Walmart sont des produits chinois. Donc, une politique traditionnelle, protectionniste, fait payer le consommateur américain. En revanche, si je dis toutes les entreprises européennes qui commercent avec l'Iran, je vais leur mettre une amende, à ce moment-là, je pénalise non pas le consommateur américain, mais effectivement l'Européen.
Est-ce qu'on doit, Jean-Marc Daniel, désobéir à cette injonction américaine de quitter l'Iran, Total, PSA, Airbus, notamment, sont présents là-bas? Bernard Guetta parlait d'une forme de chantage tout à l'heure. Est-ce qu'il faut désobéir ou est-ce qu'on est obligé de faire ce que Donald Trump demande?
Alors, c'est comme tout chantage et comme tout racket. C'est-à-dire, pour échapper aux raquettes, il faut être en capacité d'affronter la personne qui vous raquette.
Et aujourd'hui, c'est Donald Trump dans la cour de récré, le patron.
Il a un atout, il a une arme colossale, c'est qu'il gère la monnaie mondiale et que chaque fois qu'il y a un contrat qui est en dollars, il dit, écoutez, le dollar, vous pensez que c'est votre monnaie, c'est la mienne. Donc, je regarde ce que vous faites de cette monnaie. Et donc, à partir de ce moment-là, votre échange qui a eu lieu entre l'Iran et la France, mais en dollars, je regarde ce que
il
vous avez fait.
Il suffirait, disait Hubert Védrine, qui était à votre place il y a deux jours, que les transactions se fassent, tiens, pourquoi pas en euros? Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi on le fait pas?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vais vous dire pourquoi c'est pas possible. Parce que le président Emmanuel Macron, hier, a dit qu'il fallait dénoncer le fétichisme budgétaire allemand. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous expliquer que j'ai signé un traité, j'ai pris des engagements, mais ce traité, je trouve que c'est du fétichisme, je trouve que ce traité est absurde, je trouve qu'il faut le réformer. Les gens qui détiennent de l'euro disent, écoutez, s'ils en sont encore à se mettre entre eux à négocier, à essayer de voir comment ils peuvent amender...
Vous pensez que le chef d'entreprise iranien, il a entendu le discours d'Emmanuel Macron hier à Aix-la-Chapelle et il va refuser les euros plutôt que les dollars?
Je pense que, pas le chef d'entreprise iranien, mais je pense que beaucoup d'opérateurs sur le commerce international se disent, détenir des euros, c'est détenir la monnaie de gens qui sont toujours pas d'accord entre eux sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, je rappelle que Poutine a dit à Madame Clinton, un jour, Madame Clinton étant secrétaire d'État à l'époque, il lui a dit, écoutez, si vous continuez votre attitude aussi agressive à l'égard de la Russie, nous allons facturer notre pétrole en euros. Et Madame Clinton, sur la base des notes de ses conseillers, a répondu, je vois là qu'il y a une solidarité orthodoxe chez vous. Vous pensez que la monnaie d'avenir, c'est la monnaie de la Grèce. Et donc à partir du moment où l'euro, c'est la monnaie de la crise grecque, à partir du moment où l'euro, c'est la monnaie de gens qui viennent vous expliquer « je ne vais pas respecter le traité européen parce que vous êtes un fétichiste budgétaire », eh bien l'euro n'a pas de crédibilité. Et donc pour que l'euro soit véritablement la monnaie qui s'impose, il faut que, un, nous respections nos traités, et deux, que tous les gens qui sont soi-disant contre les États-Unis arrêtent d'appeler sur l'euro pour parler comme l'extrême gauche. Je pense que l'extrême gauche et l'extrême droite anti-euro sont les idiots utiles de l'impérialisme américain. Quand ils tapent sur l'euro, ils font le travail pour les Américains.
Quand Emmanuel Macron, hier à Aix-la-Chapelle, dénonce le fétichisme de l'Allemagne, il n'y a pas une part de vérité dans ce qu'il dit. Il n'y a pas le dogme des 3%. Aujourd'hui, Jean-Marc Daniel, vous pensez que c'est toujours l'alpha et l'oméga de la politique économique européenne?
Non, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle encore en France des 3%, alors que quand il est allé voir, par exemple, le Premier ministre néerlandais lui dit « Mais vous savez, les 3%, au départ, c'est une photographie pour entrer dans l'union économique et monétaire. Or, vous y êtes déjà. Donc, le véritable enjeu, c'est pas de respecter Maastricht. Le véritable enjeu, c'est de respecter le nouveau traité qui s'appelle le TSCG. Or, qu'est-ce qu'il dit, ce traité fondamental? Il dit que l'essentiel, c'est pas les 3% en tant que tel. Les 3%, ça fait partie d'une norme historique, mais le véritable enjeu, c'est de faire un arbitrage dans le déficit, entre le déficit structurel et le déficit conjoncturel, c'est-à-dire d'adapter la position des finances publiques par rapport à l'évolution économique. Il y a des périodes où il faut faire du déficit et des périodes où, au contraire, il faut faire des excédents. Or, si vous regardez la façon dont sont gérées les finances publiques allemandes, elles sont gérées totalement en conformité avec ce traité. Il n'y a pas d'excédent au sens du traité, nouveau traité européen. Il n'y a pas d'excédent allemand. Ils sont juste à l'équilibre budgétaire. Et donc, en France, en revanche, on a un déficit structurel, un déficit de long terme, un déficit indépendant du cycle économique qui subsiste. Donc, on continue à parler comme Maastricht alors qu'il faudrait parler comme TSCG. Donc, je pense qu'effectivement, on se focalise sur des mythes au lieu de résoudre les vrais problèmes. La deuxième remarque que je ferai, ce que je trouve intéressant dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il dit « les excédents des uns sont les déficits des autres ». Or, ça, c'est vrai sur le plan du commerce extérieur.
Parce qu'on commerce d'abord avec nos voisins.
Voilà, exactement. Voilà. Or, il mélange dans son discours la situation budgétaire et la situation d'équilibre extérieur. Alors, les deux sont liés, il y a des petites équations qui associent les deux, mais le fétichisme budgétaire n'est pas automatiquement lié aux excédents et aux déficits extérieurs. Et donc, là aussi, cette approximation, je me mets à la place du Premier ministre néerlandais, qui, bon, il a des difficultés politiques, et d'ailleurs, en ce moment, il dira rien, mais normalement, il aurait dû balancer un communiqué en disant « ils n'y comprennent rien ».
Jean-Marc Daniel, ça fait un an qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée. Est-ce que vous avez compris aujourd'hui ce qu'est le macronisme économique? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous le résumer en quelques secondes?
Alors si vous voulez, il y a eu un macronisme qui était le macronisme de l'époque où il était ministre, où il avait un projet. D'ailleurs, quand il est interviewé par Jérôme Garcin, quelqu'un qu'on connaît bien ici sur cette antenne, pour un hebdomadaire, il dit, absolument, il dit, moi j'ai un projet, mais on m'oblige à faire un programme, donc je vais me soumettre aux desiderata du Moloch médiatique et je vais faire un programme. Donc on est passé d'une logique de projet à une logique de programme. Et je pense que là, le macronisme s'est défait. C'est-à-dire que le projet était un projet assez social-libéral sur l'idée qu'il y avait une révision à faire de la société dans laquelle on passait d'une logique d'opposition entre les riches et les pauvres, entre la droite et la gauche, à une opposition entre les rentiers et les actifs, entre les gens protégés et les gens dynamiques, et d'une logique nouvelle.
Et aujourd'hui ?
Et aujourd'hui, on est plutôt de nouveau dans la logique du programme, c'est-à-dire je vais faire en sorte de ne pas faire baisser votre pouvoir d'achat, donc je vais bricoler la taxe d'habitation, rassurez-vous, je vais me débrouiller pour que la réforme de l'UNEDIC ne dessaisisse pas complètement.
Vous le trouvez trop prudent aujourd'hui? Il ne va pas assez loin, Emmanuel Macron?
Je pense qu'il ne va pas assez loin, et comme il ne va pas assez loin, il perd une cohérence qu'il avait dans, même quand il était ministre de l'économie. C'est-à-dire, quand il déclarait en tant que ministre de l'économie, le statut de la fonction publique est inadéquat, je pensais que devenu président de la République, ayant le pouvoir, il engagerait la négociation avec les partenaires sociaux pour voir comment mettre un terme à ce statut de la fonction publique. Quand notre Premier ministre dit dans sa déclaration de politique générale, le vrai problème de la France, c'est son addiction à la dépense publique, je pensais que le premier budget présenté se traduirait par une baisse de la dépense publique, ce qui n'est pas le cas. Donc, il perd, par manque de détermination, de la cohérence.
C'est Tony Blair ou c'est Margaret Thatcher, Emmanuel Macron ?
Je pense que c'est, si vous voulez, il avait
Bernard Guetta qui est en studio fait non aux deux, ni l'un ni l'autre. Mais la question était à Jean-Marc Daniel.
Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je vais donc rebondir sur ce qu'il a dit à Bernard Guetta. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que dans une de ses interventions quand il était ministre, il avait dit Nicolas Sarkozy s'est contenté de mimer Margaret Thatcher. Et donc je pense que Emmanuel Macron pour l'instant s'est contenté de mimer Tony Blair. Et jusque y compris d'ailleurs, il faut qu'il se méfie, mais ça c'est hors de mon champ. C'est-à-dire quand il va bombarder la Syrie en même temps que Trump, il y a des gens qui disent Tony Blair était allé bombarder l'Irak en même temps que Bush. Et donc, il faut qu'il se méfie. On va assez vite le présenter comme une caricature.
Bon, c'est un Blair Light.
Un Blair Light.
Mais c'est pas un Thatcher pour vous.
Mais non, c'est pas un Thatcher, ça clairement.
C'est un panneau qu'on voit beaucoup dans les manifs en ce moment, la caricature de Macron.
Oui, je dis, hélas.
Fiscalement, Jean-Marc Daniel, en essayant d'oublier le poids des symboles quand on parle des impôts, et on sait qu'ils sont importants dès lors, par exemple, qu'on touche à l'ISF fiscalement et en regardant uniquement les chiffres, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron, depuis 12 mois qu'il est à l'Élysée, est le président des riches ?
Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je pense qu'il est le président des gens qui veulent devenir riches. C'est-à-dire qu'il est le président des gens qui sont susceptibles ou en capacité, par la dynamique économique, de s'enrichir. Puisqu'il a maintenu quand même des impôts, notamment quand il a supprimé l'ISF, il a gardé la composante qui est la composante immobilière, avec cette idée qu'effectivement...
Une toute petite partie de l'ISF, c'était
20%. Oui, mais la composante immobilière. Ouais. Donc il y a une logique intellectuelle qui consiste à dire que les gens qui accumulent de la richesse par de la création d'entreprises et qui, en plus... partez, c'est-à-dire que c'est les présidents des riches entre guillemets qui sont restés, parce que il y a aussi une période où on n'était pas le président contre les riches parce qu'il y avait plus de riches, les gens s'en allaient.
Donc alors, président des Français qui voudraient
devenir riche.
Devenir riche, ça veut dire que ça laisse aussi de côté pas mal de gens.
Non, parce que cette idée que ce que font les riches se fait au détriment des pauvres est une vision statique.
Ah, les premiers de cordée sont de retour.
Voilà, c'est les premiers de cordée et c'est en train de marcher. C'est-à-dire que quand vous regardez le taux d'investissement en France, le taux d'investissement va atteindre, d'après les dernières prévisions de l'INSEE, un niveau de 24% cette année. Donc les prévisions, vu la position...
Ça ruisselle, Jean-Marc Daniel.
Ça ruisselle pas au sens qu'on l'entend, parce que dans le ruissellement tel qu'on le présente et tel qu'on le caricature dans la position du président de la République, il y aurait l'idée que comme les riches dépensent, eh bien, c'est pas l'enjeu, c'est pas la quantité dépensée, c'est la qualité de l'utilisation des fonds. Parce que l'État ruisselait aussi. Si vous donnez les 5 milliards de l'ISF à l'État, ça ruisselait aussi. L'État, il y a une chose qui est sûre.
Ou si vous le redistribuez aux ménages, ça fait du pouvoir d'achat.
Oui. Mais bon, quand l'État fonctionnait, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'État, il dépense. Là, ça ruisselle avec l'État. Et donc, l'idée, c'était que, effectivement, non seulement cet argent, mais surtout, ça va générer par le biais de l'investissement, une dynamique de croissance. Or, le taux d'investissement a retrouvé un niveau qu'il n'avait pas connu depuis 1972, et on atteint des niveaux qu'on a connus entre 86 et 88, qui était la période où on avait supprimé l'IGF, qui
est devenu par la suite. Jean-Marc Daniel, ça fait des années qu'on nous dit en France il faut de la croissance pour retrouver enfin un niveau de chômage assez faible. On a connu l'an dernier une croissance record, 2% en France, on n'avait pas vu ça depuis des années. Le chômage a baissé de 15 000 l'an dernier.
Oui, parce que je pense que un des problèmes de l'économie, c'est que la croissance ne suffit pas. C'est-à-dire, c'est une vision.
Donc, on s'est trompé depuis des années, en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'on a appliqué des vieilles idées, des vieilles recettes qui étaient nées dans l'après-guerre, c'était la loi d'Aucune, c'était les schémas de Alvin Hansen, qui était le conseiller économique de Truman. C'est-à-dire, il suffisait qu'il y ait de la croissance pour que les gens aient un emploi. Et on s'aperçoit que les gens ont un emploi si leurs compétences, leur formation est en correspondance avec le besoin des entreprises.
Donc, à quoi bon essayer de libérer la croissance, comme le dit Emmanuel Macron, puisque de toute façon, elle ne fait pas baisser le chômage?
Je pense que ça contribue à faire baisser le chômage, mais il faut compléter ça. Je renvoie à l'excellent entretien qu'a eu Jean Bassert, qui est le délégué général de Pôle emploi, quand il a été reconduit à sa fonction, et il a été auditionné par le Sénat. Et il a dit, effectivement, il faut de la croissance, mais il faut oublier l'illusion qu'on a eue dans les années 60-70 où la croissance organisée par la politique économique permettait d'atteindre le plein emploi. Il dit on est dans une phase où on a besoin aussi de modifier l'attitude générale des demandeurs d'emploi et passer même de logique de simple savoir-faire à des logiques de savoir-être. C'est-à-dire qu'il y a aussi une composante qu'on retrouve d'ailleurs dans le discours d'Emmanuel Macron, de responsabilisation individuelle face à la réalité économique au travers de la formation.
Jean-Marc Daniel, économiste avec nous jusqu'à 9h moins le quart. On file au Standard de France Inter. Standard nous attend Fabrice de Besançon. Bonjour Fabrice, vous êtes en direct et on vous écoute.
Oui, bonjour à tous. Alors je voudrais savoir à quoi sert l'euro si on ne peut résister au dollar.
Tout est dit.
Non, justement, il faut avoir une vision qui soit une vision dynamique. C'est-à-dire, je pense que, et je renvoie d'ailleurs les auditeurs à la lecture du dernier livre de Yanis Varoufakis, dont on peut considérer que sur le plan idéologique, il n'est pas exactement sur la même position que moi. Ça s'appelle « Conversation entre adultes ». Il explique bien pourquoi lui, en tant que ministre grec, il voulait absolument rester dans la zone euro, parce qu'il considère que effectivement, le projet euro est un projet qui permettra à l'Europe d'échapper à la dictature du dollar. Seulement, c'est dans le futur. Ça suppose effectivement qu'on fasse les efforts pour le construire comme tel. Et donc, pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé, et on n'y est pas arrivé exclusivement, à mon avis, parce que des gens ne respectent pas la règle du jeu. Là aussi, lorsque Emmanuel Macron propose ses réformes, je renvoie aussi à la lettre qui a été signée par 8 pays, dont qui sont des pays du Nord, mais dans lesquels il n'y a pas l'Allemagne, disant « nous sommes favorables au projet euro, nous sommes favorables à la consolidation de l'euro, mais à condition que les gens qui signent les traités en respectent les règles. »
Question laissée sur le site de France Inter par Patrick. Que pensez-vous du prélèvement des impôts à la source? Est-ce une mesure de droite ou de gauche?
Écoutez, c'est une mesure, pour moi, incompréhensible. C'est-à-dire que c'est une mesure qui est ni de droite ni de gauche, parce qu'elle a été défendue initialement la première fois qu'on en a parlé par Michel Rocard.
J'ajoute, la fin du message de Patrick. Avez-vous conscience que ça va être un enfer pour les patrons de TPE?
Voilà, oui.
La question est complète.
Ensuite, ça a été plus ou moins écarté à la suite d'un rapport qui s'appelle le rapport du Camin, qui avait été demandé par Nicolas Sarkozy. Mais ça a été remis en selle par Thierry Breton, et le projet actuel est issu des travaux qui avaient été lancés à l'ECOP, à l'époque où Dominique de Villepin était Premier ministre et Thierry Breton était ministre de l'économie. Alors je pense que c'est une mauvaise idée, mais qu'on est parti. Et d'ailleurs, c'est une idée qui n'est pas une idée issue de la présidence actuelle. C'est-à-dire, l'opération a été lancée sous François Hollande et Manuel Valls. Et donc je pense qu'effectivement, ça va être...
Tous les pays quasiment le font, à part la Suisse. Oui, mais aujourd'hui, pourquoi on ne le ferait pas chez nous?
On ne le fait pas. À mon avis, il y a deux raisons pour lesquelles il faudrait pas le faire, mais enfin, le coup est parti.
C'est trop tard. Hein,
oui. La première raison, c'est qu'on n'a pas la même structure d'impôt que la plupart des pays. Ce serait un sens, et ça, pour moi, ce sera utile si ça détruit l'impôt sur le revenu, si ça transforme l'impôt sur le revenu en CSG, c'est-à-dire en un prélèvement proportionnel et non pas progressif sur les revenus. Et le deuxième élément qui m'inquiète dans cette affaire, c'est que l'État est dans cette capacité, dans cette opération, et là, je rejoins ce que dit l'auditeur, est dans cette opération en train de déléguer aux entreprises des choses qui relèvent de sa mission. Normalement, le fait de collecter l'impôt, c'est la mission de l'État. Et là, on est dans une phase assez surprenante où l'État se mêle de tout, mais arrête de se mêler de la chose qui devrait être l'essentiel de sa mission, qui est de collecter l'impôt. On a ça aussi sur les amendes, sur les routes, etc. L'État est en train de recréer la ferme générale et continue à dépenser 57% de l'équivalent du PIB.
Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Pau?
De Pau, oui, c'est très beau. Bonjour. Bonjour à tous, monsieur Daniel, bonjour.
Bonjour. Je suis Aquitain moi-même, donc...
On va vous laisser,
Écoutez, on va rester à discuter.
Vous avez quand même une question ou pas?
Pardon?
Vous avez quand même une question?
Oui, j'ai une question. Je voulais vous parler du CETA. De nombreuses voix se levaient contre les traités de libre-échange, à mon avis, à juste titre. Mais il me semble que si les sanctions américaines arrivent, ce sera pire encore, puisque les produits américains via le Canada pourront venir inonder l'Europe, alors que les produits européens seront taxés aux États-Unis. Qu'en pensez-vous?
Alors, ce que j'en pense, c'est d'abord, il y a une contradiction à s'inquiéter de la politique américaine et à être soi-même contre le CETA. C'est-à-dire, les Américains font du protectionnisme. Et donc, je pense que le protectionnisme, quelle que soit la façon dont c'est organisé, est une mauvaise chose pour l'économie. Et je pense que une des raisons pour lesquelles on n'a pas eu, après 2008-2009, une situation aussi dramatique que dans les années 30, alors qu'on nous annonçait que nous allions revivre les années 30, c'est parce que les États et les pays dominants, les pays du G20, ont eu la sagesse de refuser le protectionnisme. Sur le CETA, deux remarques par rapport à ce qu'on vient de dire. La première chose, c'est au niveau européen, ce qui est frappant, c'est que l'opposition est essentiellement française. Quand le CETA a été abordé au Parlement européen, les oppositions n'ont pas été des oppositions de nature politique, mais ont été des oppositions de nature géographique. C'est essentiellement la France qui portait le discours anti-CETA, et notamment les pays d'Europe de l'Est, quelles que soient les sensibilités politiques des représentants des pays de l'Europe de l'Est, étaient très attachés à ce libre-échange. La deuxième remarque que je ferai, c'est que on critique beaucoup les produits canadiens, on dit ça va faire une concurrence concurrence déloyale. Je pense que si on se sent menacé par les produits venus du Canada, il faut laisser le consommateur arbitrer. C'est-à-dire, il faut laisser au consommateur la possibilité d'acheter ou de ne pas acheter les produits qui arrivent du Canada. Il suffit d'avoir une traçabilité de ces produits.
Jean-Marc Daniel, un mot sur le conflit social à Air France. Le PDG démissionnaire Jean-Marc Janaillac est reçu aujourd'hui à Matignon. Que peut faire le gouvernement ?
Écoutez, je crois que la chose la plus immédiate que devrait faire le gouvernement, c'est de vendre les 14% qu'il détient encore dans Air France. Je pense que aucun pays.
La solution, c'est ça, c'est de se désengager d'Air France.
Et ensuite de laisser Air France mener sa vie dans un contexte.
En quoi ça rendrait Air France plus forte sans l'État ?
Je pense que ça rendrait Air France plus forte en ce sens que ça lèverait une ambiguïté. On voit bien que, et je pense que les personnels n'ont pas tort, et on voit bien qu'il y a une sorte d'attachement sentimental à la marque qui est lié au fait que Air France, c'est encore une entreprise dans laquelle l'État est présent, et une entreprise qui symbolise une histoire, qui est une histoire de l'aviation.
Alors pourquoi casser ce lien ?
Mais parce que le monde a changé, c'est-à-dire de même que la SNCF a un statut qui a été créé en 1938, le monde a changé.
Et c'est un peu court comme argument.
Non, mais je veux dire concrètement. Oui, concrètement.
L'ancien monde, le nouveau monde, a toutes les sources.
Oui. Mais la conséquence de l'ancien monde et du nouveau monde, si vous voulez, quand on a libéralisé le transport aérien aux États-Unis, d'abord c'est pas Reagan qui l'a fait, c'est Carter. C'est donc la gauche, c'est les démocrates. Et il y a une anecdote célèbre où il reçoit un leader du Parti républicain qui est supposé être la droite libérale et tout ça, qui lui dit finalement, j'avais pas mesuré une chose, c'est que avec la libéralisation du transport aérien, eh bien, la personne qui était à côté de moi dans le dernier vol que j'ai fait pour arriver à Washington n'avait pas de cravate. Et donc, on est au début des années, à la fin des années 70. Et donc, pour ce républicain, c'est un va-nu-pied qui va bénéficier de la libéralisation du transport aérien. Je pense qu'effectivement, celui qui bénéficie du monde nouveau, de concurrence et de libéralisation qui se met en place dans le transport aérien, c'est le consommateur. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que Panam, qui était la grande compagnie de l'époque, a disparu. Il y a une liste très importante de compagnies aériennes qui ont disparu. Et donc, je pense qu'à un moment donné...
Désengager l'État d'Air France, c'est l'un des moyens aussi de prévoir la fin d'Air France à terme.
C'est un moyen de...
Ça veut dire que les partenaires internationaux pourraient se désengager eux aussi.
Ça veut dire jouer la vérité, c'est-à-dire dire au personnel, écoutez, voilà le contexte, voilà ce qu'on peut faire, voilà l'enjeu. Et l'enjeu ultime, si on n'arrive pas à adopter une position qui soit une position économiquement rationnelle, c'est la disparition de la compagnie.
Merci Jean-Marc Daniel d'avoir accepté l'invitation ce matin du 7-9 de France Inter, 8h43 à suivre le carrefour du 7-9, l'édito média, l'archive politique, la revue de presse.